toute façon, un historien doit recomposer l'histoire. Et un historien et un autre historien ayant le même sujet ne racontent pas l'histoire de la même manière. Heureusement d'ailleurs. Parce que leur rapport avec le personnage dont ils font l'histoire est différent. Notre rapport avec Jésus-Christ est différent. Mais nous sommes dans l'Évangile. Et je dirais que depuis que j'ai commencé mes études, il y a plus de 50 ans, où on était en plein dans l'historico-critique, jusqu'à maintenant, je dois dire qu'il y a eu un véritable progrès. Il y a eu un véritable progrès dans la pénétration de l'écriture, et notamment de l'évangile comme texte. Nous sommes arrivés au cœur de l'Évangile et nous avons vu que le premier titre que Marc avait donné à Jésus était découvert, reconnu par Pierre au nom des douze. Répondant, Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Christ, pour nous, est devenu une sorte de nom propre et nous n'en connaissons plus exactement toute l'histoire. Dans le commentaire que j'avais écrit il y a 25 ans, où je parlais encore de façon historico-critique, je crois qu'il ne faut pas abandonner cette manière de faire. Elle est payante aussi, mais elle n'est plus la seule. J'écrivais ceci. La question débattue est de savoir, peu importe, ça c'est pour la composition du texte, attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Savoir, oui, si le texte tel qu'il est cité là, vient de l'Église primitive, ou bien si ça vient de l'histoire elle-même. Marc accentue la portée christologique du passage, non pas pour opposer deux titres de Jésus, celui de Christ, que Jésus aurait refusé en lui substituant celui de Fils de l'homme, mais pour mieux faire percevoir la foi des disciples confronté à l'irréductibilité du mystère de Jésus. On ne peut pas dire Jésus avec un seul mot. Il faut donner des quantités de titres, c'est ce que vous voyez dans les Actes des Apôtres, hein, où il y a une vingtaine de titres qui sont donnés à Jésus dans l'Église primitive. On tâtonne. Il semble bien que celui-ci ait dû constamment les éclairer, Jésus, sur le caractère déroutant de la mission qui lui était confiée. La perspective de Marc apparaît en fin de compte comme une fidélité à l'histoire de Jésus. Même s'il enjolive, même s'il antidate certains faits, même s'il les présente à sa manière, fidélité à l'histoire de Jésus, je pèse les mots, même s'il fallait attribuer à l'évangéliste, et il le faut bien entendu, l'organisation littéraire de notre séquence, basée sur des éléments épars de la tradition, et l'élaboration de certains traits particuliers, comme le passage, la parole de Jésus traitant Pierre de Satan, qui vient juste après, ou la consigne de silence imposée aux disciples. On dit, bon, ça c'est Marc, évidemment, c'est pas Jésus qui a dit ça. Pas si sûr. Pas si sûr. Je ne sais pas exactement les mots qu'ont dit Jésus, mais je dis que ce que dit Marc quand il parle de Pierre comme du Satan, que Marc est fidèle à l'histoire de Jésus. Allons voir tout de suite. En effet, si avec la primitive Église. Marc relie le parcours historique de Jésus à la lumière de Pâques. Il a le fil rouge. C'est Pâques. En soulignant l'incompréhension des disciples, nous l'avons vu, hein, n'est-ce pas parce que, effectivement, tout au long de leur marche avec leur maître, ceux-ci ont été sans cesse provoqués par ses paroles et son action à dépasser ce qu'ils avaient compris ou pressenti à son sujet pour s'en remettre à sa personne et à son mystère. Quand Jésus détache quelqu'un de lui-même et quand il appelle ses apôtres hommes de peu de foi, c'est pour les aider à avancer. Sinon, ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Mais l'amour va beaucoup plus loin. Et Jésus est tellement plein de sollicitude pour eux qu'il ne veut pas les laisser avec ce qu'ils ont. Il veut leur faire découvrir tout ce qu'il y a en lui. Et c'est beaucoup plus. Certes, les préoccupations christologiques et ecclésiales ne manquent pas dans notre passage. Il y a tout le temps des références à qui est le Christ pour l'Église primitive. Qu'est-ce que c'est que l'Église primitive? Bien sûr, l'Église primitive, ce sont des gens qui ne cessent de se demander « Mais qui est-il celui-ci qui commande au vent et à la mer ?» Une autre foi, c'est la foi de personnes qui se mettent ensemble pour se demander « Mais qui est donc ce Jésus qui vit au milieu de nous ?» Et nous n'avons jamais fini de le découvrir. La situation des premières communautés chrétiennes, notamment celles que Marc évangélisait, les explique. Le titre de Christ, donné à Jésus par la foi chrétienne, était déjà devenu un nom propre, dont les harmoniques d'origine judaïque tendaient à s'estomper dans un milieu qui devient de plus en plus grec ou romain. Par ailleurs, l'expression « fils de l'homme », parce qu'elle nous déroute, elle est intéressante. Parce que celle-là, elle nous permet au contraire de creuser. Née, elle aussi, du milieu juif, n'était plus tellement perçue dans sa connexion avec le livre de Daniel. Au moins, avait-elle l'avantage de rappeler la façon dont Jésus lui-même se désignait et de caractériser l'accomplissement déconcertant de sa mission par la passion et par la mort. Pour les chrétiens toujours enclins, avec Pierre, à refuser la souffrance, pour eux-mêmes comme pour leur maître, Marc devait réaffirmer que toute tentative en ce sens s'avérait terrestre, satanique, incompatible avec les vues de Dieu. C'est que Dieu est Dieu. Si Dieu se met au rythme de l'homme, s'il marche avec lui, c'est pour le porter jusqu'au Père. Ce n'est pas pour le laisser. Quant à l'enseignement adressé par Jésus à la foule et aux disciples sur le sens de la vie, c'est juste où nous sommes arrivés, qui constitue la deuxième unité littéraire de notre passage, l'analyse de la rédaction de Marc, comparée à celle de Matthieu et de Luc, permet quelques conclusions. C'est toujours intéressant de voir comment les trois évangiles synoptiques, comme on les appelle, voient les choses. Les deux premières paroles de Jésus étaient déjà réunies dans la source de Marc. Oui, ceci est moins important. Quel est le sens de cette élaboration? Ceci est plus immédiatement ad rem pour nous. Quel est le sens de cette élaboration si complexe? On voit que ce sont des phrases de Jésus qui ont été mises ensemble d'une certaine manière, et toutes liées par car. Hein? C'est important, ça. Quel est le sens de cette élaboration assez complexe dans le milieu de l'Église primitive? Ayant établi plus haut que le Christ proclamé par la foi chrétienne est le Fils de l'homme, c'est-à-dire la réalisation historique de ce personnage mystérieux contemplé par Daniel, c'est-à-dire le Fils de Dieu épousant la condition charnelle, affrontant la passion et la mort avant de parvenir à la résurrection, Marc veut encore souligner le caractère transcendant de ce Fils de l'homme. Ne ramenez pas Jésus à vous, mais ramenez-vous au Père par Jésus. Il est le juge de toute vie humaine, comme il en est l'espérance. Le juge de toute vie humaine mortelle, comme il en est l'espérance vitale. Venant à la fin des temps, il est déjà présent dans les cœurs, car le royaume de Dieu s'est approché. Ainsi donc, la composition de Marc apparaît comme l'expression du credo christologique. Je crois le Christ. Jésus est le Christ, il a souffert réellement, il a été rejeté par les dirigeants officiels de son peuple, il est mort, et 3 jours après, il est ressuscité. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Vous reconnaissez le credo de l'Église. Le credo de l'Église, c'est notre histoire à nous. C'est comment le Père nous crée, comment Jésus traverse notre existence, notre mort, et nous mène à la résurrection. Et l'Église, c'est la compagnie de ceux qui ont reçu cette grâce pour le monde, mais qui ont à le vivre pour le monde. C'est ce que nous disons dans notre credo. C'est notre propre histoire. Ce credo engage l'Église comme elle engage tout homme. À quoi? À risquer sa vie à cause de lui et de l'Évangile et à vivre en conformité avec lui, manifestant ainsi que celui qui viendra dans la gloire de son Père est celui qui fait advenir en puissance le royaume de Dieu sur la terre. Voilà le sens de ce que nous sommes en train de voir. Et c'est pourquoi nous avons appelé ce centre de l'Évangile, ce cœur de l'Évangile, le pivot central. Le pivot, c'est ce autour de quoi tout tourne. Hein? Et le centre de l'Évangile, c'est cela. C'est la foi qui n'en peut plus de croire, comme le dit Pierre-Emmanuel, une foi qui est toujours trop courte, qu'il faut toujours ramener, remonter. Une foi en ce Jésus vivant au milieu de chacune de nos existences, ayant une physionomie, un visage propre dans chacune de nos vies. C'est ça le pivot central. Parce que, une fois, il a été reconnu par Pierre. Pierre qui l'a reconnu par grâce, et qui n'ose pas vivre à la hauteur de cette grâce, pas plus que chacun d'entre nous. Et Jésus sortit, et ses disciples, vers les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin il interrogeait ses disciples, nous, en leur disant, « Qui les hommes, disent-ils que je suis ?» Ceux-ci lui répondirent en disant, « Jean le Baptiste, Élie, d'autres l'un des prophètes. » Écoutez, Élie, hein, vous avez entendu Élie, hein, il va venir. Et lui les interrogeait, « Pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Répondant, Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les raboua, afin qu'à personne il ne dise cela à son sujet. Et c'est vrai qu'il est le Christ. Oui, mais attention. Dire le Christ, c'est dire une relation. La chose essentielle dans l'Évangile, c'est la relation. Ce n'est pas dire un mot. Quand vous donnez un titre à quelqu'un, quand on lui donne un mot, c'est un clone. C'est un menteur. Non, ça ne définit pas la personne. Ce qui définit la personne, c'est la relation. Moi, je l'appelle mon Christ, celui qui rassemble toutes mes espérances. Donc, ne dites pas partout le Seigneur ou le Christ de grâce. Laissez-les faire d'abord l'expérience de ce Christ. Mettez-les d'abord en relation. C'est essentiel pour la catéchèse, cela. Hein? Comment voulez-vous parler d'un Jésus Sinon, vous en parlez comme d'une histoire ancienne, mais si vous n'avez pas d'abord fait découvrir à l'enfant que Jésus est vivant, et qu'il est vivant dans la relation que vous avez avec lui. Et quand vous dites « Jésus te dit cela », vous l'appelez à découvrir ce Jésus qui est dans sa propre conscience. Ça, c'est essentiel. Mais l'information, elle peut venir après. Mais s'il n'y a pas cette relation, vous restez à l'extérieur. C'est ça que Jésus dit. Attention, attention, dites pas trop vite, tu es le Christ. Chacun a son image du Christ. Mais faites-les vivre d'abord une relation. Eux l'ont vécu. Pendant 3 sections, nous avons vu comment Jésus formait ses disciples. D'abord 4, puis 12, puis envoyer les 12 et les mettre dans l'action. Hein. Donnez-leur vous-même à manger. On n'a rien. Donnez-leur vous-même à manger. Il les a mis au pied du mur. Et ils ont fait l'expérience, et ils ont vu ce qu'ils faisaient. Alors on peut leur parler. Comme on ne parle pas à des enfants d'une multiplication des pains, si on ne leur a pas d'abord parlé de l'Eucharistie. Sinon, on arrive à, hein, quand on demandait à un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit, hein, la catéchiste? Elle a dit que Jésus faisait comme le monsieur du cirque. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur du cirque? Mais il tire des pigeons de son chapeau. Voilà, catéchèse, allô, fiasco. Jésus a dit qu'il était en train de se donner à manger. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que le texte dit. Parce que le texte fait vibrer l'Eucharistie. Et donc, ce n'est pas un truc. Alors, vous voyez, nous extériorisons souvent dans une information et on n'a pas fait le passage de la relation. C'est terrible, mais c'est difficile. Hein? C'est difficile. Et si la relation n'a pas commencé dans la famille, s'il n'y a pas de relation en profondeur entre parents et enfants, c'est archi difficile. Et il commença, bon, il commence à partir de quelque chose. On a vu qu'il était le Christ. On le croit. Mais c'est fragile. Il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme, il prend ses distances par rapport au terme Christ, que le Fils de l'homme, un homme c'est mortel, hein, doit beaucoup souffrir et être exclu par les anciens, figurez-vous, hein, les chefs du peuple, et les grands prêtres et les scribes, vous vous rendez compte? Et être tué, mort violente, et après 3 jours se lever. Attention à votre image de Christ. Hein. C'est pourquoi Jésus ramène Fils de l'homme. Et après 3 jours se lever. Et avec assurance, il parlait la parole. Il se parlait lui-même. Avec assurance, il parlait la parole. Et Pierre, le prenant auprès de lui, commença à le rabrouer. Intéressant, hein? Hein? Jésus rabroue Pierre, Pierre rabroue Jésus. On est en relation. Commença à le rabrouer. Celui-ci se retournant et voyant ses disciples, rabroue à Pierre. C'est-à-dire on se heurte. C'est ça que j'appelle la collision frontale. On se heurte. C'est bon qu'on se heurte. Pourquoi? Mais parce que ce sont 2 libertés qui sont affrontées. Et quand 2 libertés s'affrontent, c'est pour qu'elles deviennent libres davantage, l'une et l'autre. Et celui-ci se retournant et voyant ses disciples, raboua Pierre et dit, « Pars derrière moi, Satan !» Pourquoi Satan? Parce que Satan, ça veut dire obstacle. Tu es en train de me faire un obstacle. Tu veux me précéder? Et tu veux tant d'images du Christ, hein? Le Christ glorieux, là, triomphateur. Ah oui, mais il faut passer par la souffrance. Pars derrière moi, Satan, parce que tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu ramènes toi. au lieu de te laisser ramener à Dieu. Et appelant auprès de lui, attention maintenant, la foule avec les disciples. C'est-à-dire tout un chacun. Quand vous voyez venir la foule, vous savez bien que le message est universel. Et il leur dit, si quelqu'un, parole de sagesse, si quelqu'un, troisième personne, veut venir derrière moi. Venir derrière, c'est entrer dans le sillage. C'est devenir comme. Hein? Si quelqu'un veut devenir Christ avec moi, je voudrais traduire comme cela, qu'il se renie lui-même, qu'il laisse tomber tout ce qu'il est, ou tout ce qu'il pense qu'il est. Qu'il soulève, qu'il lève sa croix, qu'il lève, qu'il la porte, et qu'il me suive. Qu'il me suive avec tout son poids, tout le poids de sa vie, tout le poids de son passé. Qu'il me suive avec ce qu'il est. Et il découvrira qu'il y a un Christ qui naît à travers tout cela. Qu'il se renie lui-même, soulève sa croix et me suive. Qu'il cesse de ramener tout à soi pour se ramener à moi. C'est bien ça, hein? Et ceci est au cœur de l'Évangile. Car, voilà l'écart qui arrive, qui voudra sauver sa vie, hein, c'est-à-dire se refermer sur sa vie, l'emprisonner, la perdra. Il y a quantité de choses qui tomberont dans notre vie. Mais qui perdra sa vie ou son âme à cause de moi et de la bonne nouvelle, celui qui décidera de devenir bonne nouvelle en moi, la sauvera. Il christifiera sa vie, pour utiliser un terme de Teilhard de Chardin. Car, que sert à un homme de gagner le monde entier et d'être ruiné quant à sa vie? Il gagne le monde, il devient hein, le président des États-Unis ou le super. Et au fond, sa vie, elle reste aussi fragile qu'avant. Il n'a rien gagné. Un peu de gloriole extérieure. Car, que donnerait un homme en échange de sa vie? Notre richesse, c'est notre vie. Le peu qu'elle vaut, le tout qu'elle vaut dans le Christ. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Et c'est dit de manière sapientielle, si quelqu'un qui voudra que c'est à un homme, que donnerait un homme. Comme à la cantonade. À nous de trouver notre chemin. Où nous situons-nous? Sur le curseur. Car, fini. Qui rougira de moi et des miennes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, c'est-à-dire qui aura trop de respect humain pour se manifester comme hein, étant mon adepte, mon fidèle, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Dit autrement, si vous ne découvrez pas que le Christ est votre centre, vous êtes à côté de la plaque. Il n'y a pas d'autre solution. Mais Jésus le dit autrement. Il le dit en termes de rougir de. Il le dit en termes de relation. J'ai presque honte de t'aimer, hein, quand je vois que tu n'acceptes pas mon amour. J'ai presque honte de. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais il leur dit, c'est une manière pédagogique de parler, non pas parce qu'il rougira de nous, mais parce que il souffre dans sa relation, maintenant. Et il leur disait, en vérité, je vous dis, il en est quelques-uns de ceux qui se tiennent ici, qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils voient le royaume de Dieu venu en puissance. Et effectivement, les apôtres, l'entourage de Jésus, n'ont pas vu la mort, avant de voir le royaume de Dieu venu en puissance, c'est-à-dire la résurrection. Il en parle à mots couverts. Vous allez voir qu'il va souligner davantage. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et il les emmène vers une montagne élevée, à l'écart, seul. On a pensé que c'était le Tabor, parce que c'est une montagne élevée au-dessus de la campagne, hein, de la plaine. 580 mètres au-dessus de la plaine. Saint Jérôme mettait cela sur le mont Hermon, lui, parce qu'il dit que c'est dans la région de Césarée et de Philippe, donc c'est beaucoup plus loin, donc c'est sur le mont Hermon. Peu importe d'ailleurs. L'évangéliste ne s'occupe pas de savoir exactement où ça se trouve. Pourquoi? Et parce que la montagne, c'est ici. Et il fut transfiguré en présence d'eux. Transfiguré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa figure, son visage est comme pénétré de lumière, comme un vitrail qui s'illumine lorsque le soleil passe à travers. Dit encore autrement, et ils commencèrent à découvrir quelque chose du mystère de Jésus. Ça nous paraît être écrit, hein, dans le cadre d'un son et lumière, mais ne nous y trompons pas, le son et lumière n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et comme me disait, hein, on parlait de la transfiguration, hein, en préparant le dimanche avec des enfants du catéchisme, et comme me disait une petite fille, après avoir bien réfléchi comme ça, tu ne crois pas que ce sont, ou non, elle ne disait pas ce sont, que c'est les disciples qui ont été transfigurés. Eh bien, tu ne crois pas que c'est les disciples qui ont été transfigurés. Et je dis pourquoi? Ben parce qu'ils ont vu Jésus autrement. Parce qu'ils ont vu Jésus autrement. Et ils l'ont vu autrement. Et il était comment Jésus? Ben ils l'ont vu en vrai. Ils l'ont vu en vrai. L'enfant perçoit ça. Et ses vêtements, voilà, maintenant on va exprimer en termes symboliques. Ses vêtements devinrent resplendissants, tout à fait blancs. Le blanc étant, hein, la couleur divine. Tel qu'un foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. C'est beaucoup mieux que d'âche, hein? Beaucoup mieux. Tel qu'un foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. Autrement dit, ne cherchez pas de référence sur la terre. C'est un autre blanc. Ce n'est pas les blancs que vous connaissez. C'est plus blanc que blanc. Et il leur apparut Élie, ah tiens le voilà, avec Moïse. Et ils se trouvaient à parler avec Jésus. Élie, c'est quoi? Ben, c'est les prophètes, hein. C'est le premier prophète, le chef de file, donc c'est le prophétisme qui est là. Et Moïse, c'est qui? C'est la loi, c'est la Torah. Jésus, c'est la loi et les prophètes. De nouveau, c'est dit en termes symboliques. Et il leur apparut, Élie avec Moïse, donc c'est toute l'histoire d'Israël qui arrive, et il se trouvait à parler avec Jésus. On est de plein pied. C'est la même réalité. C'est le même Dieu qui passe, à travers les prophètes comme à travers la Torah. Et répondant, Pierre, à nouveau, hein, il faut qu'il dise quelque chose. Hein. Mais c'est son, c'est son caractère, mais c'est sa grâce. Et donc, c'est sa grâce d'être rabroué aussi. Ça fait partie de son être. Rabbi, il est beau pour nous d'être ici. Faisons 3 tentes, pour toi une, pour Moïse une, pour Élie une. Voyez, on veut ramener toi à soi. On va faire 2 tentes, on va les coincer dans notre réalité humaine, comme si c'était possible. Car il ne savait pas ce qu'il avait répondu, et ils étaient devenus saisis de crainte. Ils se rendent compte que ça les dépasse, mais ils ne veulent pas que ça les dépasse, et ils veulent ramener tout à leur dimension, 2 tentes. Thank you.
et ils sont en train de vivre la résurrection. Ils sont en train de découvrir l'intimité de Jésus, car c'est ça la résurrection. C'est Jésus intime avec le Père. Et une nuée arriva, bienheureuse nuée, hein. Parce que regarder la divinité, c'est trop fort pour nos yeux. Et là aussi, c'était une petite fille qui avait dessiné la vision du buisson ardent avec Moïse, et il avait dessiné un nuage au-dessus de Moïse. Et je dis, pourquoi tu as dessiné un nuage ? Bon, faut bien dessiner un nuage pour montrer que le bon Dieu est derrière, hein. Voilà, exactement ça. C'est ça la nuée. On peut regarder le soleil quand il y a une nuée devant, hein. À ce moment-là, on peut le fixer. Ça fait pas mal aux yeux. Une nuée arriva, les couvrant de son ombre. Cette nuée, c'est la condescendance de l'amour de Dieu, qui ne frappe pas nos regards de manière trop fulgurante pour que nous puissions quand même le regarder. Extraordinaire. Et une voix arriva de la nuée. Tiens, on n'avait plus entendu cette voix, hein, depuis le baptême. Et la voilà qui revient. Celui-ci, tiens, ce n'est plus toi, c'est celui-ci. Au baptême, c'est toi qui es mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, vous entendez-le. Ce qui était vrai pour Jésus est vrai pour tout un chacun. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, vous deviendrez des fils bien-aimés aussi. C'est la même vision. Et qui signale, de nouveau, à sa manière, c'est un sémite qui écrit, qui signale, on est au milieu du livre. Au début du livre, on a déjà vu cette voix, au milieu du livre, on la revoit. Normal, hein ? Pour qui sait lire les procédés. Et soudain, en regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne, mais Jésus seul, avec eux. Une fois que j'ai découvert l'accomplissement, la loi et les prophètes peuvent se retirer dans la coulisse. La loi et les prophètes sont en Jésus. Il me suffit. Tu es le Christ. Mais un Christ qui meurt et qui ressuscite. Et soudain, regardant autour d'eux, ne virent plus personne, mais Jésus seul, avec eux. Et comme il descendait de la montagne, hein, il faut bien, oui. C'est pas toujours un zénith, hein. De temps en temps, ça va plus mal. On n'est pas toujours en grande forme. Il leur recommanda, afin qu'à personne, ils ne racontent ce qu'ils avaient vu. Pas parler trop vite. Sinon, quand le Fils de l'homme se serait levé des morts. Voilà pourquoi, nous dirait Marc en note, voilà pourquoi j'ai attendu d'avoir découvert le Christ ressuscité pour vous écrire. Pas trop vite. D'abord faire l'expérience. Et ils gardèrent la parole, discutant en eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se lever des morts? On n'a pas bien compris, hein. Nous non plus, d'ailleurs. Nous sommes incapables de dire ce que ça signifie. Se lever des morts, c'est-à-dire ressusciter. Parce que si nous étions capables de le dire, nous serions ressuscités tout à fait. Mais nous pouvons toujours tout de même dire quelque chose. C'est cet être avec Jésus auprès du Père. Ça oui. Nous pouvons déjà dire ça. Et ils l'interrogeaient, au pluriel. C'était Jésus qui interrogeait au début. Maintenant, c'est eux qui interrogent. En disant, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Vous savez qu'il y a deux personnages de l'Ancien Testament qui ont été mis en réserve. D'abord Moïse. Moïse, bon, lui, il est mort, il n'est pas passé le Jourdain, il est mort, mais il est mort dans un baiser de Dieu, comme nous le dit, hein, le chapitre 34e du Deutéronome. Donc il est passé en Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Et on ne sait pas où. Je sais bien que les musulmans ont fait un tombeau à Moïse, pas de l'autre côté du Jourdain, mais de ce côté-ci, pour le faire passer quand même en terre promise. Mais est-ce que Dieu ne valait pas une terre promise? Est-ce qu'un baiser divin ne valait pas d'être emmené dans la maison de Dieu? Bon, en tout cas, il a été mis en réserve. On ne sait pas où il est. Et puis, il y a Élie qui a été, manière de dire aussi, emporté sur un char de feu. C'est l'élévation. Vous trouvez ça d'Élie, puis vous trouvez ça de Jésus, puis vous trouvez ça de Mohammed, et d'un certain nombre d'autres saints. Toujours des manières symboliques de parler. Un char de feu, char dit dynamisme, feu dit présence divine. Il a été emporté dans le cœur brûlant de Dieu. Pourquoi ils ont été mis en réserve, ces deux-là? Pour venir annoncer le Messie, le Christ. Voilà, on vient de nommer le Christ, il faut bien que les deux arrivent, vous comprenez bien. C'est normal. À telle enseigne que dans le judaïsme, les scribes, ce sont ceux qui ont écrit la Torah des anciens, qu'il faut laisser toujours une place à Élie lorsque il y a une fête de Pâques ou bien une circoncision. Il faut toujours laisser une place vide avec un fauteuil et on lui verse un verre de vin. Pour que, si Élie venait désigner dans la noble assemblée qui célèbre la Pâque, quelqu'un comme le Messie, pour qu'on puisse être prêt à recevoir Élie. Ou bien à une circoncision, parce que ce petit qui vient d'être circoncis pourrait quand même être le Messie. Donc pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir d'abord? Mais il y a aussi toute une tradition dans le judaïsme qui dit, quand le Messie viendra, est-ce qu'on le reconnaîtra? Il y a toutes sortes de belles légendes dans le judaïsme, sur le Messie qui est venu, qui a frappé à la porte d'une maison ou bien de la synagogue où tout le monde était rassemblé. Ils disent, non, on ne veut pas d'étrangers. C'était le Messie. On l'a pas reçu. Il y a toutes sortes de belles légendes comme ça dans le Midrash. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord pour désigner le Messie? Celui-ci leur déclara, certes, Élie, venant d'abord, restituera toute chose. On estimait à l'époque qu'il y aurait d'abord, que Élie reviendrait comme le réformateur, vous savez, c'est celui qui tuait les 450 prêtres de Baal, pour que Dieu lui-même soit vainqueur. D'ailleurs, Élia, ça veut dire mon Dieu est Yahvé. Certes, Élie venant d'abord restituera toute chose. Il mettra d'abord de l'ordre. On pensait ça. L'ordre nouveau instauré par Élie. Et puis seulement le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et cependant, question posée par Jésus. Comment est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera anéanti? Vous imaginez toujours un Élie triomphateur, un Messie triomphateur. Dans la tradition juive, il y a beaucoup de traditions, il y a 12 formes de messianisme. Pour chaque tribu, vous comprenez bien. Allez voir les formes de ce messianisme, allez voir les vitraux de Chagall dans la Hadassah, donc l'hôpital universitaire de Jérusalem. Mais vous pouvez le voir aussi dans vos Bibles, au chapitre 49e de la Genèse, ou bien au 33e du Deutéronome. Dans les bénédictions que Moïse dans le Deutéronome, ou que Jacob dans la Genèse, la bénédiction des 12 tribus d'Israël. Chacun, chaque tribu, chaque homme, chaque personne a une manière particulière d'exprimer le Messie. Le Messie s'incarne en chacun d'entre nous. Mais il y a deux types de messianisme. Il y a le messianisme glorieux, celui de David, le roi. Il y a le messianisme souffrant, celui de Joseph, le prisonnier, le maltraité, et qui vient à la résurrection, à la réconciliation, mais après avoir été maltraité et par ses frères et par les étrangers, ce qui en fait une figure du Christ. Certes, Élie venant d'abord restituera toute chose, et cependant, comment est-il écrit du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera anéanti. Mais je vous dis, Élie est bienvenu, et on lui a fait tout ce qu'on avait voulu, selon qu'il a été écrit à propos de lui. Jean-Baptiste, hein? Jean-Baptiste qui venait, hein, en accoutrement comme Élie. Mais il nous l'a dit, hein? Il nous l'a dit. Marc nous a dit tout cela en parlant de Jean-Baptiste comme d'Élie, puis en parlant, qui est-il celui qui vient? Ben c'est Élie. Attention, c'est celui qu'Élie devait désigner, et effectivement Jean-Baptiste a désigné Jésus. Pardon, on s'arrête ici, on va se retrouver à moins 25. Dans la minute.
Le glorieux, le messianisme glorieux,
c'est David. David, le roi. Et le messianisme souffrant, c'est Joseph. Mais Jean-Baptiste, c'est le prophète qui annonce le Messie. Et donc, il a cette qualité d'Élie, et qui devait annoncer le Messie.